à Madrid même, dans les années 75, 80, 85. Voilà, donc c'est. Voilà, sur le plan esthétique, c'est assez intéressant. Bien, donc vous avez eu trois versions, et il m'en restait une quatrième, mexicaine, mais il faut que je la cherche dans le CD, c'est une copie, alors c'est un petit peu compliqué, donc ce sera une autre fois. Voilà. C'est de Percam ou de Chesed, donc elle est connue au Mexique. Hein, il y a pas de, ouais. Bien. Je suppose que vous allez bien et que vous êtes prêts à travailler donc la fin du commentaire de la troisième strophe ainsi que la quatrième. Nous avons largement le temps de le faire. Pas de panique. Je ne sais pas si vous avez avancé un peu dans la lecture. Oui. Vous avez essayé et peut-être avez-vous déjà des questions, des suggestions, des pistes que je trouve très intéressantes, partir avec. Qu'est-ce que c'est ça, Ré?
C'est on a découvert une démocratie.
Chez Marita.
Ah d'accord. Bon. Alors, non?
Simplement une question ponctuelle. L'image de l'âme qui ne veut pas se laisser prendre par les bras de sa mère.
Ah oui.
Elle est reprise par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'ai pas l'impression qu'elle fasse explicitement référence à Saint Jean. Elle fait plutôt référence à Isaïe.
Ouais, ouais, ouais.
Est-ce qu'on peut penser qu'il y a quand même une référence à...
Peut-être. En tout cas, chez Saint Jean de la Croix, l'enfant dans les bras de sa mère, l'enfant au sein de sa mère, l'enfant dans les bras de sa mère, il y a deux choses. Hein. L'enfant au sein de sa mère, que sa mère sèvre en mettant un produit amer sur son sein, acide sur son sein pour que l'enfant soit sevré et qu'elle pose par terre. Donc elle est au moins deux reprises chez Saint Jean de la Croix. Donc elle est dans la nuit, ça c'est clair, au début de la nuit. Et c'est la mère très aimante de la grâce de Dieu qui fait ça. Bon. Et puis alors, il y a aussi l'enfant que sa mère porte dans ses bras et qui patine et qui se débat parce qu'il ne veut pas être porté. Donc ça, c'est autre chose. C'est plutôt en référence à une enfance spirituelle et de fait, ce que nous allons voir à faire à l'enfance spirituelle. C'est-à-dire le fait d'accepter d'être porté par Dieu, enveloppé par Dieu et conduit par Dieu. Hein. Donc, c'est-à-dire d'entrer en Dieu de manière divine. Alors ça, c'est aussi cette métaphore de l'enfant dans les bras de la mère, mais qui ne veut pas être porté. C'est autre chose, ça va? Bien.
Moi, j'en ai une, mais je ne sais pas si je vais bien l'exprimer.
Une question?
Oui.
Ah, d'accord.
C'est qu'il dit que l'âme donne Dieu à Dieu.
Ah oui, bah alors si vous allez là, oui, si vous commencez par là, oui. Si vous commencez par où, on va aboutir.
C'est-à-dire que dans l'Eucharistie,
oui.
C'est bien ce qu'on fait. On offre l'amour de Jésus qu'on a en nous à Dieu le Père. Évidemment, c'est pas ça qui veut dire bien plus que ça, je comprends. Mais on le fait déjà dans l'Eucharistie. Et la petite Thérèse, elle dit, pour vous aimer comme vous m'aimez,
oui.
Il me faut emprunter votre
propre amour.
Alors seulement je trouve le repos.
Ouais.
Donc, ici, c'est ce que...
Oui, votre propre amour. C'est-à-dire, nous allons être conduits à donner Dieu à Dieu, rendre l'Esprit Saint qui nous est donné à Dieu.
Oui,
c'est ce qu'on appelle la reentrega, la remise de l'amour. Et comment? Ben, par une participation, ouais, par une assimilation.
On le fait un peu l'extérieur.
Ah bah oui.
Mais
oui.
Là, lui, il le fait de l'intérieur.
Ben, c'est-à-dire que, oui, c'est l'accueil du don de l'Esprit. Et dans cet accueil, il y a la remise de tout ce que nous sommes, mais aussi, mais en même temps, enfin la remise, on va voir ce que c'est que cette participation à la procession de l'Esprit-Saint. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez élevé, il faut reconnaître, oui, c'est assez élevé tout ça, on est un petit peu dépassé. Hein. Mais ça nous fait comprendre cette chose que c'est ce qu'on appelle l'égalité d'amour. Hein. Dans le cantique spirituel, ça revient tout à fait à cela. Cet Esprit qui nous est donné, nous le spirons, hein, comme Jésus en lui, pour le redonner. Et au fond, c'est l'Esprit Saint qui est notre trait d'union. trait d'union avec Jésus et qui est notre communion avec Dieu en personne. Donc c'est toute cette réalité-là, hein, en personne. Ce n'est pas seulement un don créé, ce n'est pas seulement notre offrande eucharistique de tout ce que nous sommes, c'est le don que Dieu fait de lui-même dans le Christ, par le Christ, dans l'Esprit Saint. C'est ce don que l'on rend à Dieu. Et donc, on peut aimer Dieu autant qu'on est aimé de lui, par l'amour qu'il nous donne dans l'Esprit Saint. Alors évidemment, c'est ce qu'il appelle l'égalité d'amour dans le cantique spirituel. Et là, c'est la remise, la réentrega. Oui, mais c'est l'Esprit Saint qui égalise, disait tout simplement le Père Lethel. C'est l'Esprit Saint qui égalise. Parce que c'est franchement disproportionné, franchement inégal, mais c'est l'Esprit Saint qui égalise.
La divinisation de la personne.
Oui, bien sûr. Alors évidemment, c'est toujours de l'ordre d'une participation pour nous. C'est que nous réalisons partiellement ce que Dieu est en plénitude, mais participation réelle, réelle. Oui, forcément, là, on va toucher des choses un petit peu, assez sublimes, oui, ça c'est clair, c'est très clair. Mais il l'explique bien sous l'angle de l'amitié, de la réciprocité, on va y venir en détail, mais vous avez raison, hein. C'est-à-dire que c'est ça ce qu'il a appelé le mariage spirituel. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage ? C'est un contrat, c'est une alliance, c'est stable, c'est définitif, et c'est une amitié, et ça veut dire que les dons sont réciproques, et qu'il y a un échange, et qu'on partage tout. Eh bien, si l'âme reçoit comme don la personne don, elle va rendre la personne don. C'est-à-dire qu'elle va être prise dans le souffle de l'Esprit, et dans l'aspiration d'amour du Père et du Fils. Elle va être aspirée, elle va y participer. Elle participe, il le fait comprendre, à la procession de l'Esprit Saint, oui. Et oui.
C'est donc le vertige.
Oui, mais en même temps, si vous dites que si vous dites que ce sont les réalités, c'est le réalisme de la grâce qui fait que nous sommes identifiés au Christ et qui souffle l'amour. Et étant identifiés au Christ qui souffle l'amour, en lui, par lui et avec lui, nous soufflons cet amour. C'est ça la sainteté. La sainteté, c'est la présence et l'habitation de l'Esprit Saint en nous. C'est l'envahissement de l'Esprit Saint, on le dit bien ça. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là parce que l'âme, le cantique le dit, est devenue la sœur, l'épouse. Et donc si elle est l'épouse, il y a une égalité. Une certaine égalité, c'est clair, oui. Mais enfin, et c'est pas autant que dans le ciel, il dit encore ça. Vous voyez, il y a deux nuances. C'est une participation, c'est une certaine égalité, donc c'est une certaine proportion. Et c'est pas autant que dans la gloire. Donc on a quand même deux nuances. Ça peut aller ? Voilà. Mais il faut reconnaître que ça donne le vertige, et il faut reconnaître que, on peut trouver que c'est un peu... Oui, c'est trop, quoi. Trop, c'est trop. Mais justement, Saint Jean de la Croix a dit, il ne faut pas s'étonner. Il le répète sans cesse. Lui, il y croit. C'est-à-dire qu'il croit à la puissance de l'amour qui nous est donné. Parce qu'il est divin. Et ouais, il y croit. On est trop timide.
C'est ce que saint Paul dit dans l'Épître aux Romains.
Oui.
Celui qui est conduit, ils font le véritable chrétien, celui qui est conduit, qui est mû par l'Esprit Saint.
Oui. Ceux-là sont enfants de Dieu, qui sont mûs par l'Esprit de Dieu. C'est l'une des références pauliniennes les plus fortes chez saint Jean de la Croix. Oui. 8:14, Romains 8:14. Ouais. Et l'Esprit Saint se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. S'il se joint à notre esprit, se joindre, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. C'est cette kénose dont on parlait, mais... Donc se joindre, c'est épouse, épouser notre esprit.
Il y a union.
Hein. Donc ce n'est pas des mots vains. Est-ce que la parole de Dieu est vaine? Je crois qu'au fond, saint Jean de la Croix a tiré jusqu'au bout les conséquences de la parole de Dieu, de la révélation de notre filiation et de notre dignité filiale ou sponsale, comme vous voulez, dans l'Esprit Saint. Il tire les conséquences jusqu'au bout. Alors après, il les présente, j'allais dire, de manière aussi avec des symboles poétiques pour faire entrevoir et tout ça. Mais vous verrez, j'avais creusé, c'était l'époque où ça m'intéressait quand j'avais préparé ça, certaines questions de saint Thomas, et vous verrez que c'est tout à fait dans la même rigueur. Sauf que Jean de la Croix le présente de manière symbolique, mais vous allez voir, ouais, d'une manière très précise et rigoureuse, on retrouve les affirmations de saint Thomas sur les processions divines et notre participation à la vie, à la nature divine. Qu'est-ce que ça veut dire? La seconde lettre de Pierre, 1,4, 2 Pierre 1,4, nous sommes rendus participants de la nature divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire quelque chose ou est-ce que ça ne veut rien dire? Est-ce que c'est des mots ou est-ce que c'est une réalité? Ce sont des mots dans la réalité. Participants de la nature divine. C'est le texte, hein?
Oui.
De la deuxième de Pierre. Nature au sens de principe d'opération. Donc nous participons aux opérations. Quand on a dit opération, on croit qu'on a tout dit, mais on n'a pas tout dit, c'est sûr. Enfin, bon, de connaissance et d'amour intra-trinitaire. C'est notre entrée dans la vie trinitaire. On y est déjà, mais c'est notre avancée dans la vie trinitaire. Est-ce que c'est du réel ou pas? Si on est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur qui nous saisit et nous porte et nous transforme. Une autre question?
Oui, mais bon. C'est pas du même. Les citations de Saint-Jean de la Croix, quand c'est le Nouveau Testament, on les retrouve bien telles qu'elles. Quand oui. C'est Ézéchiel ou Jean, c'est plus la même chose.
C'est-à-dire que lui, il cite le texte latin de la Vulgate, qui d'ailleurs ensuite a été réformée déjà juste après sa vie, la fameuse Bible clémentine. Donc c'est une Vulgate un petit peu en évolution, hein, qu'il connaît. Alors forcément, on ne s'y retrouve pas, nous, parce que nous, on a la nouvelle Vulgate, on a tout ça, bon, et puis on lit en français, habituellement, ou dans nos langues. Donc il y a tout, et c'est les traductions à partir de l'hébreu, tandis que lui, il fait sa traduction espagnole à partir du latin. Donc forcément, il y a quelques petits décalages, ça c'est
sûr.
Variantes.
Hein?
Il y a des variantes en plus, ouais, c'est clair. Ouais. Oui, c'est assez notable, ça, ouais. Mais c'est quand même assez fabuleux, la connaissance de la Bible qu'il a. C'est assez fabuleux. Alors, parfois, on a l'impression d'une interprétation un petit peu accommodatrice, enfin, il tire le texte, mais en général, de manière très profonde, quand on regarde de près le sens spirituel, quoi, des textes auxquels il fait appel, on voit que c'est quand même bien vu. Hein.
Donc, Monseigneur Pliné.
Oui.
Fait cette thèse de
Bora. Oui, bien sûr, oui.
Sur Saint-Jean de la Croix.
Et la Bible, oui.
La Bible, c'est
Saint-Jean de la Croix. Oui, c'est publié dans les études carmélitaines, c'est 1948-49. C'est déjà assez ancien. Ouais. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits à ce sujet-là, mais je trouve rien d'absolument convaincant sur l'approche que Jean de la Croix fait de la Bible. On le fait beaucoup à partir de Dei Verbum, à partir des nouveaux critères donc de Dei Verbum. Alors c'est bien, puis en même temps ça force un peu, je trouve. Mais il y a beaucoup d'études qui sont faites à ce sujet-là, oui. Mais je n'ai rien trouvé de convaincant jusqu'à maintenant. Ni en espagnol, ni en français. Ni... Des éléments, oui, mais bon. Voilà. Bien. Alors on va s'y lancer, non? Si vous êtes d'accord. Nous en étions restés donc à ce pauvre maître spirituel, hein, maître ou maîtresse spirituelle. Comment? Ça n'a pas été mis en route? Oui, il n'est pas là, Marc, c'est vrai qu'il m'avait dit. Vous l'avez mis en route?
Ce sera en route là-bas aussi, alors.
Ah, j'ai aucune idée, alors.
Je ne sais pas s'il a aussi.
Si.
Oui.
Ah, vous l'avez dit, c'est ok, d'accord.
On avait
fini,
c'est tout ça,
pour le maître spirituel. Bon. C'est mis sur on. Bien, ça va. Alors, nous avions donc deux autres ennemis, enfin si quand même, oui, deux autres ennemis, ou deux autres aveugles plutôt. Hein. Donc le démon, ce mystère de ténèbres et ce prince des ténèbres qui est posté dans le passage du sens à l'esprit de la connaissance distincte à la connaissance aimante et contemplative, et qui attire au sensible, au raisonnable, à l'intellectuel, hein, sur la berge ou sur la rive du distinct, qui ramène au naturel. Voilà, il distrait. Et il dit bien que l'âme mange des bouchées de ses connaissances particulières alors qu'elle est faite pour un festin. Hein, voilà. Pour une connaissance amoureuse simple, 365 ou 1022 dans le seuil. Et surtout, elle est faite pour un festin, mais elle est surtout faite pour être mangée et assimilée par Dieu. Et elle, elle perd son temps à manger des petites bouchées. Donc le troisième aveugle, c'est l'âme elle-même. Donc il y a une certaine responsabilité personnelle, intérieure dans tout cela. Il y a pour l'âme, donc... Le grand excès de l'activisme et du volontarisme. Donc nous avons cette image de l'enfant dans les bras de sa mère qui s'obstine, qui ne veut pas être porté. Et puis nous avons l'image du tableau et du peintre. Vous vous rappelez cela, hein? Donc Dieu porte dans ses bras. Je crois qu'en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, la contemplation, telle que Jean de la Croix la présente pour l'avoir vécu, pour la vivre, hein, elle est très liée à l'enfant spirituel qui fait à Dieu la première place, hein, et l'honore comme l'agent principal, selon les expressions de Jean de la Croix. Hein. C'est ça l'enfant spirituel. Alors nous sommes arrivés au paragraphe 68, donc après cette énorme digression de 40 paragraphes, c'est quand même assez énorme, le saint revient à l'explication de la strophe, pour nous montrer la plénitude de Dieu, que donne aux cavernes de l'âme l'union parfaite. Donc nous revenons au sens de l'âme, à ses cavernes, à ce sentir spirituel. Bon, probablement Saint Jean de la Croix s'inscrit dans une ligne très traditionnelle avec les pères, Origène, etc., hein, qui était quand même transmis au Moyen-Âge, mais bon, il ne le cite pas. Il y a donc ce sentir spirituel, paragraphe 68-69. Hein? Vous arrivez à suivre sur le plan que je vous ai donné? Ouais. Oui. Plus ou moins. Retour aux cavernes de l'âme. Donc, nous allons voir cette question de posséder Dieu et de l'aimer parfaitement. Et en effet, je vous l'ai mis, il y a cette expérience antinomique de la fin et de la possession de Dieu. Donc Dieu se donne à connaître dans l'amour, sa présence se fait sentir dans les profondeurs de l'âme, une âme ouverte, silencieuse et paisible. Ces cavernes, c'est une capacité d'infini, qui évidemment, c'est sûr que vu enfin, le monde, la culture dans laquelle on vit, enfin, c'est sûr que c'est un petit peu un autre niveau, quoi, mais plutôt... Il faut un petit peu aller au-delà des superficialités du monde, c'est sûr, hein? C'est clair. Hein? Bon. Donc, nous avons cette question du sentir spirituel, c'est la capacité du fond de l'âme à goûter et à désirer la présence de Dieu. Cette présence de Dieu atteinte par l'intelligence, la mémoire et la volonté. Donc, c'est cette capacité à goûter. Et au fond, on retrouve aussi cette théologie des dons du Saint-Esprit, avec le don de sagesse surtout, hein, qui est le fait de savourer la présence surnaturelle de Dieu, hein, le monde surnaturel. C'est une expérience antinomique parce qu'il y a une onction qui attise la faim, une souffrance du vide... Et puis en même temps, il y a une possession, une jouissance, l'expérience d'une possession de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire posséder Dieu ? Saint Thomas d'Aquin dit à la question 43, toujours, cette question des missions divines, première de la Somme, première partie, question 43, article 3. Nous possédons ce dont nous pouvons jouir librement. On n'a pouvoir de jouir d'une personne divine qu'en raison de la grâce sanctifiante. Et on peut jouir d'une personne divine en raison de la grâce sanctifiante. Le Père Marie-Eugène, dans Je veux voir Dieu, vous irez voir à la page 315 sur les dons du Saint-Esprit. Il parle de communication divine. Et il dit que par les dons du Saint-Esprit, on fait... non pas une expérience de Dieu, de possession de Dieu, mais une quasi-expérience. Il met une nuance. Il dit que l'âme n'expérimente ni Dieu ni son action, mais seulement les vibrations produites en elle par cette action divine. Donc la résonance, l'écho, hein, c'est-à-dire la résonance magnétique, hein, de l'expérience. Donc il dit que l'expérience mystique n'est pas une expérience directe, mais une quasi-expérience de Dieu à travers la vibration que produit son intervention. Donc, c'est une nuance qui est peut-être éclairante, celle-là, je trouve. Et c'est ce qu'on sent dans les expressions symboliques de saint Jean de la Croix. Caverne, sens spirituel, sens de l'âme, goût de Dieu, possession de Dieu, et en même temps faim, attisé. Seul le don de sagesse, dit le père Marie-Eugène aussi à la page 317 de Je veux voir Dieu, donne l'expérience délectable du don de Dieu. Il procède de la charité et perfectionne les autres dons. Voilà, quelque chose là. Hein. On savoure. On sait et on savoure. Alors, nous allons lire le paragraphe 71, si vous voulez bien, ou la page 1026. Nous allons donc voir ce don de Dieu sous l'angle de la lumière, de l'illumination. Et nous allons voir aussi ce que c'est que l'aveuglement de l'âme, car le sens était aveugle. Les cavernes du sens qui étaient aveugles, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on peut y aller? Lecteur.
Dans le langage spirituel, autre chose et se trouver dans l'obscurité et autre chose être plongé dans les ténèbres. Être plongé dans les ténèbres, c'est se trouver dans l'aveuglement que cause le péché. Mais on peut être dans l'obscurité sans péché, et cela de deux manières. Ou bien par rapport aux choses naturelles, lorsqu'on n'est pas éclairé à leur sujet, ou bien par rapport aux choses surnaturelles, lorsqu'on manque de lumière sur certaines vérités de l'ordre surnaturel.
Alors, la vérité de l'ordre surnaturel, tout ça, c'est... Oui, on n'a pas de lumière au sujet des choses surnaturelles. D'accord? Tout simplement.
L'âme nous dit ici qu'avant d'avoir atteint la précieuse union divine, son sens était plongé dans l'ombre sous ces deux rapports. Effectivement, tant que le Seigneur n'a pas dit « fiat lux », les ténèbres régnaient sur la face de l'abîme, c'est-à-dire sur les profondeurs du sens de l'âme.
C'est-à-dire sur la caverne du sens de l'âme, d'accord, hein?
Plus cet abîme est profond, plus profondes sont les ténèbres où ces profondeurs sont plongées par rapport au bien surnaturel. Et ces ténèbres durent tant que Dieu, qui est sa lumière, ne l'éclaire pas. Or, il est impossible à l'âme de lever les yeux vers la divine lumière. Elle n'a même pas la pensée de le faire, parce que n'ayant jamais vu cette lumière, elle n'en a aucune idée et ne peut par conséquent la désirer. Ses désirs la porteront plutôt vers les ténèbres parce qu'elle les connaît. Ainsi, elle ira de ténèbres en ténèbres, guidée par les ténèbres, car les ténèbres ne peuvent conduire qu'aux ténèbres, selon cette parole de David. Le jour annonce la parole au jour et la nuit enseigne la science à la nuit. C'est ainsi qu'un abîme en appelle un autre. Un abîme de ténèbres appelle un autre abîme de ténèbres, et un abîme de lumière appelle un autre abîme de lumière, parce qu'un semblable appelle son semblable et se communique à lui. La lumière de la grâce que Dieu a donnée à cette âme, et dont il a éclairé l'abîme de son esprit, l'a ouverte à la lumière divine et l'a rendue agréable à ses yeux.
Ça, c'est la grâce. La grâce qui rend agréable, gratum sanctifiant, c'est la grâce qui rend agréable, hein, gratum faciens, on dit en théologie scolastique. La grâce gratum faciens, qui rend agréable, d'accord? C'est la grâce première, la grâce justifiante, sanctifiante. Hein. Bon.
cette lumière de la grâce, appelée un autre abîme de grâce. Je veux dire la transformation de l'âme en Dieu, laquelle illumine à tel point le sens de l'âme et le rend si agréable à Dieu, que la lumière de Dieu et la lumière de
l'âme... Tu es dans le A ou le B?
B.
Ah, d'accord. D'accord, oui. Continue.
Et la lumière de l'âme ne font plus qu'un. Mm-hmm. La lumière naturelle de l'âme est alors unie à la lumière surnaturelle, mm-hmm. en sorte que la lumière surnaturelle brille seule, de même qu'à l'origine du monde, la lumière créée par Dieu vint se joindre à la lumière du soleil, en sorte que la lumière du soleil brilla seule, sans toutefois anéantir la première.
Mm-hmm. Alors, lisons aveugle maintenant, 72.
En outre, l'âme était aveugle. Mm-hmm. En outre, l'âme était aveugle en tant qu'elle se délectait à autre chose.
Voilà, donc vous avez deux éléments. Hein. Aveuglement qui est lié au péché, il faut l'illumination de la grâce. Hein. Et cette illumination dans le prolongement de la grâce, hein, dans la logique de la grâce, qu'est cette union d'amour. Hein. Et puis, il y a cet aveuglement qui vient de l'âme elle-même. Qu'elle se produit, qu'elle se cause. Hein? Et c'est assez intéressant parce qu'on vient toujours au docteur des nuits, là. Hein? L'âme se crée son malheur et son propre aveuglement par ses goûts, par ses attraits, par ses attirances, par ses appétits hein? pour les choses. Bien.
Parce que l'aveuglement du sens rationnel et supérieur, c'est l'appétit. Lequel, à guise d'une taie, au nuage s'entremet et se pose dessus l'œil de la raison, afin qu'elle ne voie les choses qui sont devant elle.
Donc il parle même d'une cataracte. Vous savez, les gens qui se font opérer de la cataracte, il faut le faire, hein, c'est pas dramatique, mais là il y a une cataracte sur l'œil, c'est le mot espagnol, catarata.
Et ainsi, tandis qu'elle proposait au sens quelques goûts, il était aveugle et ne pouvait découvrir les grandeurs de richesse et de beauté de Dieu derrière la taie.
Derrière quoi? Derrière la cataracte.
La T.
Une
T.
Une T.
Du vieux français, ça. Hein?
Ah, comme une tête d'oreiller. Non, pas une tête d'oreiller.
Ben, c'était AIE.
Ah oui.
T-A-I-E,
ouais. Ah oui, c'est ça. Oui. Et vous nous servez ça comme ça. Vous, ça vous gêne pas de nous dire ce mot?
Ben non, c'est ce qui m'a plu.
Et qu'est-ce que vous avez d'autre, vous?
Un nuage.
Un nuage, oui.
Un nuage.
Le nuage de l'inconnaissance, c'est ça.
Ça fait ça, un nuage, et toi, tu vois?
Un voile, bon, c'est déjà mieux ça. Ouais, André Bord est meilleur cette fois-ci. Et vous là, chez. Ah ben il n'est pas là, Marc, donc on l'a pas. On n'a pas la meilleure version. Bon, bah, tant pis. Bon, c'est la cataracte, tout simplement. La cataracte, il faut l'opérer, il faut l'enlever, et puis après, ça n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Bon. Alors, on peut finir? Oui.
Car tout ainsi que mettant sur l'œil une chose si petite soit-elle, c'est assez pour lui fermer la vue et empêcher qu'il ne voie les autres choses qui sont devant lui, si grandes soient-elles, ainsi quelque léger appétit ou quelque acte oiseux que l'âme
est. Ça, c'est le français du 17e, donc c'est sympathique. Oui, aussi chaud, oiseux, oui.
Suffit pour mettre obstacle à toutes ces grandeurs de Dieu qui sont au-delà des goûts et des appétits que l'âme recherche.
Oui, lisez la première phrase seulement. Du 73.
Oh, qui pourrait ici dire combien il est impossible que l'âme qui a quelque appétit puisse juger des choses de Dieu selon ce qu'elles sont.
Voilà. Donc, aveuglement qui vient des appétits déréglés, désordonnés. L'œil a une cataracte. C'est aveuglement de l'âme, évidemment, dont viennent à bout les purifications que saint Jean de la Croix a évoquées. Plusieurs fois dans la vie flamme. Alors nous allons entrer maintenant dans la remise, dans la réentrega de l'amour, c'est les paragraphes 77, 78, 79. Donc nous allons nous élever, c'est sûr. Nous avions vu, vous vous rappelez, au début de la strophe, combien les lampes de feu rayonnaient dans l'âme, les lampes de feu des perfections et des attributs divins rayonnaient dans l'âme, vous vous rappelez, qu'elles les réfractaient, qu'elles les réfléchissaient, alors qu'ils étaient un, mais qu'elle les réfléchissait de manière distincte, composée. Vous rappelez ça ? Bon. Et on avait évoqué combien il était nécessaire que l'âme soit transparente à cette lumière. Hein? On retrouve ça là, en effet, avec cette histoire d'aveuglement. Hein? Il faut que les écailles de l'âme ou la cataracte tombent, hein? Pour qu'elle puisse accueillir pleinement la lumière, juger des choses de Dieu. Et nous allons voir maintenant comment elle renvoie ses splendeurs. Elle réfléchit. Il y a dans la Montée du Carmel, au livre 2, chapitre 5, Montée du Carmel, livre 2, chapitre 5, une très belle image, bien connue, pour dire ce qu'est l'union divine. C'est l'image de la vitre investie par le soleil et qui, plus elle est pure, moins elle a de crasse, réfléchit parfaitement la lumière du soleil, la renvoie au soleil et la réfléchit pour les autres. Donc cette image assez fondamentale chez Saint Jean de la Croix, elle peut nous aider à comprendre aussi ce qui se passe, car l'âme va réfléchir, réfracter, renvoyer en splendeur ces lampes de feu qui rayonnent en elle et cette ombre lumineuse, vous vous souvenez aussi, qui la couvre. Dieu lui a fait confidence de son être, de ses perfections. L'âme touchée à l'intime lui renvoie amour et lumière reçue dans sa participation aux perfections divines. C'est un retour de l'homme dans ses facultés, mais dans le don de Dieu. C'est une sorte de réflexion de la lumière dans l'amour. Mais il va nous faire comprendre que c'est une réflexion libre, voulue, volontaire.
Il y aura le miroir aussi
dans la quatrième strophe. Oui. Donc elles sont en train de renvoyer Dieu en Dieu, en plus de la remise qu'elles font d'elles-mêmes à Dieu. Donc la lumière du soleil qui se reflète en elles, elle la renvoie tout entière. Alors, lisons 77. Donc, avec des splendeurs étranges, je pense que c'est ça la traduction. Elle donne tout ensemble à son bien-aimé chaleur et lumière. Donc, amour et lumière. D'accord ? Alors, lisons 77, 78 et 79. Et puis, on va essayer de tirer un petit peu des choses de tout cela. Alors, vous avez derrière, c'est signifié dans vos notes, je suppose, non ? Saint Jean de la Croix a derrière la tête, il lit pendant qu'il écrit la Vie Flamme, c'est attesté par les témoins, un petit opuscule qui s'appelle De Beatitudine, que lui il attribue à Saint Thomas, mais qui n'est pas de Saint Thomas, bien, qui est, je vous l'ai mis, d'un certain, je vous l'ai mis, c'est ça, j'en ai pas mis plus, oui. Alors, c'est un brave homme. Qui s'appelait Helvicus Teutonicus. Donc c'est un pseudo Thomas, Helvicus Teutonicus, donc l'allemand si vous voulez, du 15e siècle, donc c'est nettement postérieur à Saint Thomas, et qui a écrit ce petit opuscule sur la béatitude et qui, j'allais dire qui imagine, non, un peu exagéré, enfin qui nous plonge dans la vie de la béatitude éternelle, quoi, la vie glorieuse. Voilà. Ce texte, il le mentionne dans le Cantique B, 38.4 déjà. CSB, 38.4. Donc on sait qu'il avait ça en main quand il écrivait la Vie Flamme et la deuxième version du Cantique spirituel. Il est évoqué aussi dans la nuit, de nuit 18.5. Alors on dit que c'est la Summa Opusculorum Beati Thomae, mais bon, voilà. En fait, on a retrouvé la trace. Bon, il y a toujours des chercheurs et des historiens qui qui se penche sur ce genre de questions. Et donc, on a montré que ce n'était pas du bienheureux Thomas, comme il le disait, mais de ce pauvre Helvicus Teutonicus, qui n'en était qu'un pâle reflet du maître. Mais enfin, voilà. Et qui explore donc la vie glorieuse et, en effet, mentionne des splendeurs. Jusque dans le vocabulaire employé par Saint Jean de la Croix, on voit qu'il a pompé. Voilà. Il a pompé dans ce livre. Il parle de trois splendeurs, l'amour, la fruition et la louange. Vous allez voir qu'on trouve ça à la fin aussi de la strophe. Voilà, bon, donc il y a des têtes chercheuses qui ont bien identifié cela. Je trouve ça assez amusant. Il faut avoir le temps de faire ces choses-là, mais c'est utile. Bien. Alors, lisons un petit peu ça. Je pense que vous êtes assez armés. Nous allons donc voir cette réciprocité de l'amour, ce retour de la lumière et de l'amour reçu, ce renvoi. Il y a une perfection étonnante, con extraños primores, des étranges perfections. Cette perfection ou excellence qui consiste à rendre, à donner Dieu à Dieu en Dieu. Está dando a Dios, al mismo Dios en Dios, y es verdadera y entera dádiva del alma a Dios. 378. Donc, elle donne Dieu à Dieu en Dieu, oui, c'est ça. Hein? Et c'est un véritable et entier, c'est un don entier et véritable de l'âme à Dieu. Voilà. Alors, comme les textes sont là, on ne peut pas penser à une erreur de traduction. Hein? Alors, on va voir un petit peu ce qu'on... Elle dit par possession héréditaire, donc on est héritier. Ça vous fait penser à qui? Si on dit qu'on est héritier, à Saint Paul, hein, Galates et Romains, hein, d'accord? Voilà. Possession héréditaire, elle peut en disposer comme d'une chose sienne, par la grâce que Dieu lui a faite de se donner lui-même. Elle peut le donner, le communiquer à qui elle veut. Voilà. Bien. On attaque ça? 77, 78, 79. Oui, tu vas, Gabriel? Ouais.
Je crois que c'est bon. De même, c'est conformément à la perfection avec laquelle l'âme connaît les magnificences de Dieu quand elle leur est unie, qu'elle brille et répond à la chaleur de son amour. Mmh. Ainsi en est-il à l'égard des autres attributs divins de force, de beauté, de justice, qui lui sont communiqués.
Ah, on n'est pas tout à fait à cet endroit-là. À mon avis, c'est drôle, c'est Lara, ça? Je ne sais pas. Ah oui, mais on a quand même quelque chose de plus avant, donc... J'ai l'impression que cette traduction... Est-ce que...
C'est le numéro qui est...
Le paragraphe avant. Oui. Avec d'étranges perfections. Est-ce que tu peux... C'est-à-dire étrange et étrangère à toute pensée habituelle. T'as pas quelque chose de ça?
Le cristal...
Vous avez ça, Geneviève? Non, vous avez toujours votre seuil?
Oui, j'ai pas...
Attendez, je vous... je sais plus... J'ai mis les pages.
J'ai fait perdre 1030,
vous n'arrivez pas à trouver ça, page 1030.
1030, c'est 1-0.
Mais c'est ça. Alors, bah, écoutez, on va peut-être prendre dans l'autre, alors. Hein. Tant pis, on va faire fi du seuil, non hein, ça ne vous ennuie pas. Hein. Prenons l'autre. Vous y allez, Père-Victor? 377. Vous allez voir si vous y retrouvez, vous, dans le seuil. Hein. Ah, mais à vrai dire, c'est avant. J'ai dit 377, 78, 79. C'est 77, oui. Oui, c'est 77, oui. Avec d'étranges perfections, elles donnent lumière et chaleur tout ensemble à leur bien-aimé. Oui. Car ces cavernes étant les puissances, etc.
Oui,
vous y êtes, 77, allez-y. Allons-y, on va voir. Vous n'avez pas ça, vous?
Les profondeurs des puissances.
77, paragraphe 77.
Oui, c'est ça. Les profondeurs de puissance si hautement, si merveilleusement oui. pénétrées des admirables splendeurs des lampes dont nous avons parlé,
oui.
outre la remise qu'elles font d'elles-mêmes à Dieu, renvoient à Dieu, en Dieu même, les splendeurs qu'elles reçoivent de lui. Mm-hmm. Tout cela se passe dans une gloire pleine d'amour. Les puissances, inclinées vers Dieu, en Dieu, sont devenues d'autres lampes enflammées au milieu des splendeurs des lampes divines. Elles donnent aux bien-aimés la même lumière et la même chaleur d'amour qu'elles reçoivent de lui. Elles les donnent de la même manière qu'elles les reçoivent à celui de qui elles les reçoivent et avec les mêmes excellences. Ainsi, La vitre jette des splendeurs quand la lumière du soleil la pénètre.
Non, c'est plutôt investir, c'est l'investi. L'investi, la prend d'assaut. Hein? La vitre est prise d'assaut. Hein? Oui.
Mais ici, tout se passe d'une façon bien plus sublime parce que la volonté humaine s'exerce ici.
Parce qu'elle s'en mêle, oui, c'est ça, elle y entre. Donc on va voir qu'il y a un oui, hein, il y a un je veux, hein, de l'âme humaine, c'est pas du tout passif. Hein, ça. Alors avançons, avec des splendeurs étranges, vous vous êtes retrouvés dans le seuil ? Ça va à peu près ? Vous avez à peu près ce texte-là ? Bon.
Et elle le fait en singulière excellence, c'est-à-dire en excellence au-dessus de toute expression, en excellence au-dessus de tout mode créé. C'est que l'excellence avec laquelle l'âme donne ici lumière et chaleur à Dieu est proportionnée à l'excellence du mode suivant lequel l'entendement humain reçoit la sagesse divine, tandis qu'il ne fait plus qu'un avec l'entendement de Dieu. Effectivement, l'âme ne peut donner autrement qu'elle ne reçoit. C'est donc selon toute l'excellence avec laquelle la volonté est unie à la bonté,
donc, intelligence, sagesse, hein, de Dieu, volonté, bonté.
Qu'elle renvoie à Dieu cette même bonté, car elle ne la reçoit que pour la renvoyer. De même, selon toute l'excellence avec laquelle elle connaît la grandeur de Dieu, dans l'union qu'elle a avec cette grandeur, elle donne à Dieu lumière et chaleur d'amour. Telle l'excellence des autres attributs divins communiqués à l'âme, la force, la beauté, la justice, etc. Telle l'excellence avec laquelle le sens, dans sa jouissance, donne son bien-aimé à son bien-aimé en lui-même. Étant ici une même chose avec lui, elle est en certaine manière Dieu par participation. Cette transformation n'est pas aussi parfaite qu'elle l'est dans l'autre vie, et cependant, on peut dire que l'âme est devenue comme l'ombre de Dieu. Par suite de cette transformation, l'âme, devenue l'ombre de Dieu, fait en Dieu, pour Dieu, ce que Dieu fait en elle, pour lui-même, et de la manière dont...
Ah, ça, c'est pas juste. Pardon. Elle fait elle-même en Dieu, par Dieu, c'est por Dios. Par Dieu, ce que lui fait en elle, par lui-même. De la manière dont il le fait. Donc c'est par, hein, elle fait par Dieu, c'est pas pour. Non, ce serait para en espagnol. Il y a deux prépositions. Il y a por, qui exprime le moyen, et para, qui exprime le but. Donc ça, c'est très clair en espagnol. Voilà. Donc elle fait par Dieu ce qu'il fait en elle par lui-même, de lui-même, quoi. Hein? Selon la manière dont il le fait. Hein?
Parce que les deux volontés ne font qu'un.
Oui, ça va, ça.
L'opération de Dieu et l'opération de l'âme ne sont plus qu'une seule opération. Mm-hmm. En conséquence, Dieu se donna par un don libre et gracieux, l'âme dont la volonté est également libre et généreuse, puisqu'elle est unie à celle de Dieu, donne Dieu à Dieu-même en Dieu. Et le don que l'âme fait à Dieu est un don véritable et entier. L'âme voit ici que Dieu est vraiment à elle et qu'elle le possède par droit héréditaire, comme fils adoptif de Dieu. C'est le résultat du don que Dieu lui a fait gracieusement de lui-même.
Et c'est à cause de la grâce que Dieu lui a faite de se donner lui-même, tout simplement. À cause de la grâce, c'est la théologie de la grâce. Simplement.
Dieu est véritablement à l'âme.
Oui.
Quelque chose comme un
fils. Ah, bah, c'est sûr. Et alors, vous pouvez continuer ? Oui, finissez la phrase. Et comme chose sienne, il peut le donner et communiquer.
Oui. Et elle peut en disposer librement pour qui est bon lui semble. Pour qui est bon lui semble. Mm-hmm. Elle rend alors à son bien-aimé Dieu qui sait donner lui-même à elle. C'est ainsi qu'elle s'acquitte de sa dette, donnant avec toute la force de sa volonté autant qu'elle reçoit.
Mm-hmm. Ce 79.
En ce don.
Pardon.
Est-ce que derrière, il y a une idée de, des indulgences et des mérites pour qui bon lui semble ? Elle peut en disposer librement.
Eh bien,
ça,
il y a le.
Un autre degré, ou, c'est autre chose.
Il y a de fait, en tout cas, la théologie de la communion des saints, ça c'est sûr. Alors, qui intègre indulgence, etc., comme vous voulez, oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr, oui. Ben, c'est dans la logique hein, de la grâce.
Mais c'est intéressant de le,
oui.
De le voir sous
cet angle-là. Quoi. Je crois que justement, c'est une chose que j'avais creusée avec Sainte Thérèse d'Avila. Et on voit chez Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, très nettement, pour les saints que je connais, la question du mérite, dans la dogmatique catholique, le mérite est réel, puisque c'est la valeur de ce que nous faisons ou souffrons dans la grâce de l'Esprit-Saint, la valeur, ce que notre action ou notre passion, la valeur qu'elle a, et la proportion par rapport au bien surnaturel, la récompense de la gloire, etc. Donc nous méritons, nous participons au mérite du Christ. Notre liberté produit des actes qui ont une valeur aux yeux de Dieu. L'Évangile parle de récompense. Donc, c'est réel. Donc, le mérite, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une certaine proportion entre ce que nous faisons dans la grâce, par la grâce, hein, et puis le don que Dieu nous fait, hein, de la gloire ou l'accroissement de la grâce. Donc, il y a une proportion, nous méritons. Eh bien, c'est observé que chez les saints, chez les mystiques, la question du mérite, il la retourne dans un sens ecclésial. C'est-à-dire que, c'est très enfant, j'ai dit, je ne ferai pas valoir, mais je paraîtrai les mains vides, etc., je ne ferai pas valoir mes mérites, vraiment. Donc, le mérite est réel, les mérites sont réels en soi. Hein, et ça, on ne peut pas le nier, c'est de foi catholique. Il n'y a rien à faire. C'est le chapitre 16 du décret sur la justification à 30, donc c'est une réalité face au protestantisme. Le mérite existe, il est réel, parce que sinon, il n'y a pas de liberté. Et sinon, nous ne sommes pas responsables de nos actes. Donc c'est très grave de dire qu'il n'y a pas de mérite. C'est faux. Hein, c'est contraire à la foi catholique. Mais la façon dont, aussi bien Sainte Thérèse d'Avila, à la fin du château intérieur, dans les septièmes demeures, que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus parle du mérite avec l'acte d'offrande, etc., c'est que c'est... Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit « Je ne veux pas acquérir de mérite dans les derniers entretiens, sinon pour... Hein, » c'est pour les autres. Donc, ça rejoint ça. Hein. La théologie du mérite envisagée sous un angle ecclésial... Eh bien, fait sortir un petit peu de ce truc égoïste, calculateur, etc., qui faisait fuir les protestants. Luther dit, la théologie du mérite, c'est la théologie de l'antéchrist. Il dit ça. C'est un truc papiste, c'est la théologie de l'antéchrist. Toute cette histoire de mérite, décongruo, décondigno, voilà, les deux. Il dit l'un comme l'autre. Tout ça, c'est la théologie de l'antéchrist. Ça veut dire qu'on a un droit sur le don de Dieu, tout ça, c'est pas possible. Alors évidemment, si on voit ça sous l'angle ecclésial, de la communion des saints et des pécheurs, quand on dit les saints, c'est les justes et les pécheurs aussi, hein, eh bien, je pense que ça peut être envisagé autrement.
L'indulgence, c'est justement
oui, ça. C'est ça oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui. Ça n'a de sens que dans cette perspective, sinon c'est vraiment le petit bout de la lorgnette, hein, si c'est pas remis dans cette grande perspective-là. Mais le Seigneur nous associe à ce point à son œuvre, et il nous fait participer à ce point, à ces opérations de connaissance et d'amour, que nous réfléchissons ça, nous le renvoyons à lui, mais aussi pour les autres. C'est la vitre, de fait, elle nous fait, si elle renvoie la lumière vers le soleil, mais elle nous fait profiter de cette lumière aussi, nous qui sommes dans la pièce, nous qui sommes dans la maison, dit Thérèse de Lisieux, tous ceux qui sont dans la maison profitent de la lumière qui vient de cette vitre. Donc, je crois qu'on peut envisager... sur un plan spirituel et mystique, le mérite de cette façon-là, et que c'est une belle manière de surmonter la difficulté œcuménique que ça représente. Parce que alors, on s'attribue ses mérites, on s'approprie ses mérites, on calcule ses mérites, on entasse ses mérites, etc. Tout ce que Sainte Thérèse d'Enfant Jésus ne voulait pas. Hein? Oui, dans ce contexte d'une compréhension de la justice de Dieu dans ce sens-là. Quoi. On satisfait, etc. Donc on entasse les mérites. Thérèse de Lisieux, elle ne dit pas « je ne veux pas de mérite », elle dit « je veux bien des mérites, mais pour les autres ». Et je trouve ça très intéressant comme, comme dépassement de, un petit peu de la contradiction que ça peut représenter, de la difficulté que ça peut représenter. En réalité, quand même, le Concile de Trente précise bien, on voit bien dans les débats, il cite Saint Bernard, parce que les luthériens citaient Saint Bernard, que les saints, devant le jugement de Dieu, etc., enfin, au moment de la mort, ne font pas valoir leurs mérites, mais leurs péchés, etc., etc., pour attirer la miséricorde de Dieu. Très bien, disent les pères jésuites, ce sont deux jésuites délégués par le pontife romain Paul III au Concile de Trente, et qui, à l'époque, connaissaient très bien saint Thomas d'Aquin, donc, qui donc montrent que les saints disent sans doute qu'ils ne veulent pas faire valoir le mérite, mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas objectivement des mérites. Eh bien oui. Oui, c'est l'attitude par rapport au mérite. Qu'il signifie. Et je trouve que vraiment, oui, ce que dit Thérèse d'Avila à la fin, quand il est question des mérites, de la valeur, de la moindre des œuvres faites en Dieu, dans les quatrièmes demeures, dans les septièmes demeures, le chapitre 4, à la fin, eh bien, on voit que là, c'est pour les autres. Parce que c'est la question des sœurs, mais moi, je suis enfermé dans ma clôture, je voudrais annoncer l'évangile, etc. Et donc on peut tomber dans une sorte de mégalomanie spirituelle ou d'illusion spirituelle. Elle dit, mais le prochain qui est à côté de vous, vous pouvez le servir, etc., etc. Et la moindre des œuvres que vous avez accomplissées, si elle est unie à l'offrande que notre Seigneur a faite sur la croix à son Père, alors elle a cette valeur. Et c'est pour les autres, c'est en vue des autres. Donc voilà, je trouve ça, c'est quelque chose à creuser. Il me semble que dans le dialogue œcuménique, ce sera à creuser.
Même pour la mariologie, elle est
conseillée. Oui, pour la Vierge Marie, oui, bien sûr, oui. Ah ben, de toute façon, tout ce qu'on peut dire sur cette théologie catholique de la grâce, du mérite et de tout ça, ça se vérifie toujours en mariologie, c'est clair. C'est la Vierge Marie qui vérifie la vie théologale au plus haut degré, c'est clair. Ouais, ça va toujours ensemble, ça se tient toujours. Ça se tient toujours, c'est sûr. Bien. Alors, je crois que ce que je peux vous donner, je sais pas quel effet ça va vous faire, hein. Mais enfin, bon. Donc, vous verrez au paragraphe 81. C'est long, cette strophe, quand même, paragraphe 81. Donc, ce sont les perfections ou effets ou fruits qui sont précisés par rapport à l'amour. Donc, il parle de la joie, la fruition, la louange, l'action de grâce. 82, l'amour, c'est la première perfection et que l'âme aime Dieu, non par elle-même, mais par lui-même, par le Saint-Esprit. Bon. La deuxième, elle aime Dieu en Dieu et non pas seulement dans les créatures. C'est intéressant tout ça. La troisième, non pour ce qu'il est, non pas seulement pour ses dons ou ses effets. Hein? D'accord? Bon, alors, là, il pompe tout ça dans le fameux traité de la béatitude. Hein? C'est connu, c'est prouvé. Hein? Mais on voit que quel dépassement suppose de telles perfections? Aimer Dieu, non par soi-même, mais par lui-même, par le Saint-Esprit. Il faut vraiment être dilaté, il faut vraiment être agrandi pour pouvoir vivre ça. Hein. Deuxième, aimer Dieu en Dieu et non seulement dans les créatures. Hein. Donc, il faut être vraiment, il faut habiter Dieu, ou habiter en Dieu, il faut avoir sa demeure en Dieu et dans son vouloir. Hein. Et pour ce qu'il est, non pas seulement pour ce qu'il donne, c'est quel désintéressement, hein. Donc, on voit ce dépassement que suppose de telles perfections. Hein. C'est au fond cette perfection de la charité, hein, qui est mise, si vous voulez, en nous, l'amour est un peu... Il faut qu'il atteigne... Il faut qu'il passe par une sorte de je pourrais dire qu'il soit un peu écartelé, crucifié pour arriver à ce dépassement. C'est clair. Hein. Donc, il faut que l'Esprit-Saint nous soit donné en personne. C'est clair. C'est donc lui qui va produire l'égalité, qui va égaliser, qui va remédier à la distance entre l'amour de l'âme et l'amour essentiel et personnel de Dieu. Mais il est donné à la personne humaine. La grâce, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous est donné. Ce n'est pas des mots. C'est l'Esprit-Saint en personne qui nous est donné. Hein, en vertu de la grâce sanctifiante. Donc voilà. Donc c'est pas tout à fait abstrait tout ça. Alors évidemment... Si vous lisez quelques affirmations de saint Thomas d'Aquin sur le même thème, vous verrez que saint Jean de la Croix dit de manière symbolique ce que saint Thomas a affirmé de manière très spéculative. Je veux dire, l'un et l'autre sont aussi audacieux. Hein. Je vous ai mis quelques références, me semble-t-il, dans ma feuille de chou, non? Oui, prima, question 38, article 1. Alors, Saint Thomas nous dit, la possession d'une personne divine est un privilège accordé à la créature raisonnable lorsqu'elle devient participante du Verbe divin et de l'amour qui en procède, jusqu'à pouvoir librement connaître Dieu en vérité et l'aimer parfaitement. C'est la participation à l'amour et à la connaissance de Dieu. Quant à réaliser cette possession, elle ne peut y parvenir par ses propres forces. Il faut que cela lui soit donné d'en haut, puisque ce que nous tenons d'ailleurs, nous disons que cela nous est donné. Nous tenons d'ailleurs, ça va ? Bon, voilà des petites affirmations qui montrent que saint Thomas avait pensé à tout ça. Hein, que saint Thomas, saint Jean de la Croix n'est pas complètement farfelu, quoi, si vous voulez. Pardon. C'est pas que je ramène saint Jean de la Croix à saint Thomas, je m'en défendrai toujours. Hein. Mais je vous montre que on a en théologie spéculative, par un génie quand même théologique, des affirmations tout à fait semblables. Hein? Ça va ? Bon. Bon, peut-être c'est pas trop la peine. Ça va peut-être suffire. Oui, pardon ?
Non, par rapport aux excellences suivantes,
oui.
Là.
Oui, aux excellences suivantes.
La première est quand cet état, l'âme.
Pouvez-vous me dire le paragraphe, mais vous ne pouvez pas.
Et j'ai pas de numéro, non.
C'est grave.
C'est le numéro suivant.
Suivant de quoi ?
De
ce que nous venons de dire ?
Des excellences d'amour, là.
79, oui. Que nous venons de dire ou quoi ? Non ?
Pas de numéro 82.
Ah, 82, tout ce que je viens de vous énumérer, oui, d'accord, oui.
L'excellence de l'amour, son nombre de 3.
Oui, après, d'accord.
C'est après.
Et au sujet de cette image de la fruition, c'est ça ? Non, c'est quoi ?
Non, l'âme a 3 autres merveilleuses et principales excellences. La première est qu'en cet état, l'âme jouit de Dieu par le moyen de Dieu même.
Oui, c'est ça. Oui, c'est le numéro 83. Oui. Oui. Mm-hmm.
La question, c'était comment l'âme perçoit, comment l'âme peut faire la différence entre la jouissance de Dieu,
oui,
et la jouissance des attributs de Dieu. Enfin, ou des dons de Dieu, je ne sais pas.
Non, mais il le dit juste après, ça va ensemble.
Ça va ensemble.
Lisez la suite, dites-nous ce que vous lisez, vous, dans votre traduction
si
magnifique et antique et solennelle.
Car comme elle unit ici son entendement à la toute-puissance, sagesse et bonté, etc.
Oui.
Bien que pas aussi clairement qu'en l'autre vie,
oui,
elle se délecte grandement en toutes ces choses qu'elle entend distinctement,
voilà,
ainsi que nous avons dit ci-dessus.
Donc voilà, donc elle se délecte, elle jouit dans ses attributs qu'elle perçoit et qu'elle savoure, hein, de Dieu lui-même.
Ce qu'on voit, c'est que l'âme ne veut pas s'attacher justement dans les étapes précédentes, avant le mariage spirituel, avant l'union à Dieu. L'âme ne veut pas s'attacher vers
ses expériences spirituelles.
Alors qu'elle, elle est pleinement dedans et elle est contente.
C'est-à-dire que cela lui est donné.
Ouais.
Et au ciel, quand cela vous sera donné, vous n'aurez pas envie de partir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le bonheur, c'est ça. C'est quand ce que vous attendiez, ce que vous désiriez, ce que vous vouliez connaître, vous le connaissez. Et que le bien qui vous comble, il vous est donné. Donc vous le possédez. Et donc, justement, la jouissance au ciel, elle est tout à fait normale. Donc là, vous n'allez pas quitter ça. Et c'est ça votre bonheur éternel. Et c'est ça que les damnés n'auront pas. Eh oui. Donc là, justement, saint Jean de la Croix, il nous fait faire une petite incursion dans la vie bienheureuse. Et donc, il prend...
Les autres jouissances avant, elles étaient égoïstes.
Et elles étaient... c'est-à-dire qu'aussi, il faut... Oui, vous avez raison, on arrive à s'éclairer. D'une part, il y a tout un travail de purification qui fait que, eh bien, les miettes de Dieu, finalement, on s'y attachait, mais c'était que des miettes. Tandis que là, c'est Dieu lui-même. Hein, bon. Et aussi, faites attention à tout ce qu'il a dit avant, il faut le tenir. Elle rend Dieu à Dieu par le oui de sa volonté, en se donnant elle-même. Donc voilà, c'est que le don parfait de nous-mêmes, il est dans ce bonheur. C'est que ce bonheur suscite ce don parfait de nous-mêmes, et dans ce don parfait de nous-mêmes, il y a ce bonheur. C'est vraiment ce que dit Gaudium et Spes, l'homme ne se trouve que dans le don désintéressé de lui-même. Donc nous nous trouvons dans ce don, et c'est pour ça que nous sommes heureux, nous jouissons. La joie, hein. Pour nous aussi, faites attention, le mot jouissance, tel qu'il est traduit, gozar, fruition, hein, nous, évidemment, nous sommes dans une culture très érotisée et tout ça, donc ça fausse complètement. Hein.
C'est,
ça n'a rien à voir.
Joie,
c'est la joie au cœur des saints. Hein. Donc c'est tout à fait, enfin je veux dire, c'est à un autre niveau, quoi. Hein, au centre de notre, nos désirs profonds sont comblés, c'est ça la joie, par le bien souverain. Hein. Donc, mais c'est une joie qui est procurée, qui nous permet de nous donner, et c'est dans le don aussi que nous trouvons cette joie, nous nous trouvons. Et oui, puisque l'âme rend Dieu à Dieu, en se donnant elle-même, en s'offrant elle-même. Eh oui, c'est ça. Au fond, le don parfait de soi-même, il est dans le bonheur du ciel. Et nous, parce que aussi, pardon, je crois qu'aussi nous avons une conception du ciel qui est d'une part très statique, c'est que nous regarderons le film. Donc c'est très statique, c'est très extérieur et c'est très statique. Non, nous serons pris dedans. Donc c'est déjà une première chose. Hein. Et puis l'autre chose, nous pensons que nous allons jouir, que nous serons pépères, et donc dans un fauteuil, quoi, si vous voulez. Et c'est pas ça du tout, le mouvement de l'amour. Thérèse de Lisieux, là encore, dans les derniers entretiens, quand elle dit qu'elle va pas se reposer, parce que pour nous, la vie du ciel, c'est le repos, parce que sur la terre, on trime, on souffre, on en bave, et donc au ciel, ce à quoi nous aspirons, c'est d'être tranquille, confortablement installé devant l'écran de télévision, à contempler Dieu, en spectateur de Dieu. C'est ça notre vision, notre espérance, au fond. Hein, j'allais dire, mais c'est vrai, c'est une fausse espérance, et c'est de l'espérance faussée, ça. C'est que nous serons aspirés en Dieu, et ne croyez pas que Dieu soit un Dieu statique. Et donc, nous serons aspirés dans la vie même de Dieu. Et donc, forcément, nous bougerons. Nous ne serons pas des spectateurs passifs. Et ce ne sera pas le repos. Et ce sera le repos quand même. Voilà. Diego, qu'est-ce que tu voulais dire ?
Non ? Je pense à des choses.
Attendez, il voulait dire quelque chose. Hein,
je crois que vous avez répondu, mais c'était par rapport à ce qu'il disait. Moi, je pensais, dans la première étape de la vie spirituelle,
oui.
Parce que fait Jean de la Croix dans la montée du Carmel,
oui.
À la théologie apophatique.
Oui.
Donc on arrive à appréhender des concepts, par exemple la simplicité, en niant la complexité de l'humain, de l'opposé. Et donc, on atteint des attributs du vin,
oui.
Par la théologie apophatique,
oui.
Et on risque même de s'attacher à ce qu'on a compris de...
Oui, voilà. Donc il est très sévère à ce niveau-là.
Voilà, et du coup, il dit, ben, en avançant, tu purifies en faisant un effort,
oui.
D'aller plus loin dans,
oui.
La compréhension du divin,
oui.
Mais dès que tu es arrivé à un concept, par exemple, de simplicité,
oui.
Il faut se détacher de ce concept-là.
Parce qu'il faut se laisser aspirer par le Dieu infiniment incompréhensible. Tu te souviens le livre 3 qu'on avait travaillé ensemble à propos de... Dieu est infiniment incompréhensible. Donc comprendre, ça ne veut pas dire absurde, ça ne veut pas dire incompréhensible au sens où je dis ce qu'il m'a dit était incompréhensible. Non, je ne peux pas le comprendre. Il n'y a que Jésus qui est compréhensor de Dieu. C'est-à-dire qu'il embrasse Dieu. Hein. Nous ne pouvons pas l'embrasser, il nous échappe, nous ne pouvons pas l'épuiser, c'est ça le mystère. D'accord ? Nous ne sommes pas comprensores, hein, dit saint Thomas. Ouais, on est d'accord là-dessus. Donc ça, c'est tout un cheminement. On est tout à fait d'accord. Hein. Ça demeure, sauf que là, c'est donné. Là, c'est donné. C'est pas conquis. Hein. C'est pas acquis. C'est donné et on est pris dedans. En étant pris dedans, on se donne. Donc forcément, on s'y attache pas. Enfin, je veux dire, on n'est pas coincé par, on n'est pas retenu par ça. Le problème des appréhensions pour Saint Jean de la Croix dans la montée du Carmel, ce qu'on appréhende de Dieu et tout ça, c'est que ça nous appréhende aussi. C'est que ça, ce qu'on saisit de Dieu, ça nous saisit. Ce sont des saisies qui nous saisissent. Donc c'est ça qu'il voit, c'est un point de vue. C'est très important. Mais là, ce n'est pas le cas parce que nous sommes emportés là, hein, dans notre personne. Et nous rendons à Dieu ce qu'il nous donne, c'est-à-dire lui-même. Ça va ? Ouais, c'est sûr que là, on voit, c'est un point de vue des sommets. Hein, ce n'est pas le même point de vue que l'itinéraire, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Et puis, bon, ben, je vous dis, il pompe dans ce traité de la béatitude, donc c'est quand même, j'allais dire, en rigueur de terme, la vie bienheureuse. Donc là, il y a quelque chose d'incoatif, de fait, par la vie théologale. C'est la vie éternelle déjà commencée. Saint Thomas le dit. Je veux dire, ce n'est pas un problème. Incoatio vitae aeterna, par la vie théologale. C'est commencé, il le dit bien, c'est anticipé. On en a un petit quelque chose, quoi. Un petit quelque chose. Oui.
Parce qu'on a l'impression ici qu'il n'y a plus de place pour la foi. pour la vertu de foi. On n'a pas cette impression. On est pris dans la charité.
Et... On a l'impression que le voile s'est déchiré. C'est un peu vrai.
Il n'y a plus la place pour la foi.
Oui.
Alors que ce n'est pas tout à fait
ça. C'est pas tout à fait ça. On est un peu sur le seuil de la gloire, mais la vie flamme, c'est ça aussi. Hein, comme la fin du cantique. Il y a quelque chose qui s'en trouve. Et on va le voir dans la strophe 4. Qu'en effet, il y a quelque chose qui s'en trouve.
Mais à la fin, il dit alors même que là, on n'éprouverait aucune joie. Donc elle peut aussi l'éprouver.
Où est-ce que vous avez ça, vous, s'il vous plaît?
Le même paragraphe.
Mais... Le même paragraphe que nous venons de dire, 83.
Oui. La troisième perfection de la louange consiste à chanter Dieu à cause de ce qu'il est en lui-même, car alors même que l'âme n'en éprouverait aucune joie. Donc c'est possible qu'elle n'en éprouve aucune joie.
Oui, vous avez raison.
84, fin du 84,
oui, porque aunque el alma ningún deleite recibiese, le alabaría por quien él es. Oui. Donc il y a des choses, c'est un petit peu antinomique tout ça aussi, hein. On voit qu'il y a une jouissance, puis même s'il n'y a pas de jouissance, elle louerait Dieu.
Hein? Mais
c'est ce que fait Thérèse, hein. Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites. Hein? Elle cite le psaume et c'est dans l'épreuve de la foi, donc elle n'a aucune jouissance. C'est toujours intéressant de rapporter ça à Thérèse parce qu'elle l'illustre en fait. Thérèse de Lisieux est une grande clé de lecture de Jean de la Croix, c'est sûr. C'est très vrai. Donc même si elle n'en recevait aucun délice, aucune joie, elle le louerait pour ce qu'il est. Ouais. Donc on voit qu'il a mis un peu tout pêle-mêle, hein. Il a pompé dans ce bouquin, il met tous les trucs un peu comme ça, hein, faut reconnaître. Hein. Et c'est plus ou moins antinomique aussi, hein, évidemment. Hein.
Le père Pessac, il en parle aussi dans son article sur l'amour chez Thérèse de l'Enfant Jésus. Mm-hmm. Il se rapporte à
Jean de la Croix, parce que
Jean de la Croix, ce passage.
Je l'ai mis dans la bibliographie, il a fait...
De Jean de la Croix, mais aussi de Thérèse.
De Thérèse, oui. La communication substantielle de Dieu. J'ai mis ça comme article dans la bibliographie que je vous ai donnée. Il faut aller voir le père Pessac. Il explore beaucoup ça. Le père Pessac, ça le fascinait beaucoup. Hein. C'est clair, toutes ces affaires-là, toutes ces hauteurs-là. Hein? Bon, alors, je voudrais quand même vous dire, puis on va s'arrêter avec ça. Donc, vous avez bien des choses de saint Thomas, hein, qui montrent que ben, tout cela, c'est finalement, je vais dire, c'est bateau. Non, il faut pas exagérer, mais enfin, c'est dans la normalité. Hein? Vous pourrez lire dans les entretiens sur la charité du cardinal Journet. Le cardinal Journet a l'art de présenter de manière pédagogique et simple certaines réalités. Et lorsqu'il évoque l'amour d'amitié dans la nature de la charité, au paragraphe 2, il a ces mots, l'amour d'amitié de Dieu qui tombe sur moi, qui descend, et une fois qu'il nous a touchés, nous pouvons remonter vers lui avec l'amour qu'il nous a donné. L'agapé, c'est un amour qui remonte. Il dit que ce n'était pas possible d'envisager ça dans la philosophie grecque avec Aristote. Pas possible d'envisager une amitié avec les dieux, car ça supposait une égalité. Là, il y a bien une égalité. Dieu va se donner à moi dans son amour, et ainsi il devient mien. Et si je le possède, il est à ma disposition. Et je peux le retourner à Dieu, donner Dieu à Dieu. Bon, c'est saint Jean de la Croix. Hein. Le cardinal Journet était tout à fait fasciné par Jean de la Croix. Hein. Cette richesse que Dieu va mettre en mon cœur, ce sera lui-même qui sera commun à lui et à moi. Il se donne dans cette charité créée, de même que le soleil se donne dans son rayon. C'est la source qui se donne dans son effet. Et il dit, c'est fou. Que Dieu appartienne à Dieu, cela va de soi. Il réside en lui-même. Mais qu'il vienne en moi pour y résider, que je puisse être non plus seulement moi, mais moi avec lui qui s'est donné à moi, et que je me donne à lui avec lui qui est en moi. Voilà. Je trouve que ça simplifie bien les choses. Hein? Voilà. Ici, Jean de saint Thomas, donc un théologien carme, qui dans la suite de saint Jean de la Croix avait travaillé cet amour de charité. Aimer Dieu qui se veut à lui des amis. Donc je suis ami. Si je suis ami, eh bien je rends à Dieu ce qu'il me donne. J'aime Dieu se voulant des amis et me voulant aussi moi pour son ami. Voilà, c'est cette théologie de la charité comme amitié poussée jusqu'au bout. Bon, je pense que ça peut peut-être suffire comme cela. Faisons la pause, 10 minutes. Allez, hop.